Bruno Retailleau. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.
Radio G 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Waouh, quel générique! On est tous en train de hocher la tête dans le studio. Générique, c'est la nouveauté un petit peu de la quatrième saison de Topette. Voilà, on a revu l'habillage sonore, l'ambiance musicale, mais aussi les voix, et d'autres surprises arrivent. Et puisqu'on parle de nouveautés, moi je vous propose de souhaiter la bienvenue, alors non pas à des membres de l'équipe de Topette, mais à de l'équipe de Radio G au sens large, puisque cette équipe s'agrandit aujourd'hui. Célia et Astrid, de rejoindre l'équipe de Fadi, de Gélaref en service civique pour toute la saison. Elles vont être les comparses de Nolwenn. Nolwenn ne sera pas tout seul entre Fadi et moi-même, mais elle sera bien accompagnée de Célia et d'Astrid jusqu'au mois de juin, si les calculs sont bons. Le programme, sinon, demain, on va fêter les 111 ans du NDC Football du côté du stade de Bertin, du côté d'Avrier, presque d'Avrier. Et on va parler aussi de l'association Spama qui aborde le deuil infantile, journée mondiale le 15 octobre prochain. Jeudi, vous le savez, les semaines d'information sur la santé mentale. Alors jeudi c'est un jour, une semaine c'est une semaine, c'est du 7 au 20 octobre, mais nous on les reçoit jeudi pour parler en tout cas du collectif organisateur en Maine-et-Loire, ici à Angers. On est partenaire depuis 4 ans maintenant, et d'ailleurs ce soir encore on va diffuser un podcast qu'on a réalisé ensemble sur c'est à partir de 18h40, voilà, deuxième épisode sur une série de 9. Ce soir, normalement, nous serons ou pas, surprise au cours de l'émission, avec Maud et Amélie du Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou pour parler, entre autres, de cette zone de turbulence qui aura lieu du 29 octobre au 10 novembre 2024, bien évidemment. Troisième édition. Si vous êtes des habitués de l'émission, vous en savez déjà un petit peu. On va parler aussi du début de saison, des stages et de tout un tas de choses. Et en deuxième, première partie d'émission, on verra, on va adapter en fonction. On va recevoir le secrétaire général de la Ligue contre le cancer ici en Maine-et-Loire, Pierre Pabot du Châtelard. Pour parler, vous le savez bien, d'Octobre Rose, c'est Nolwenn qui va se charger de mener cette interview. Et un mardi sur deux, on est très content d'accueillir Charles. Bonsoir Charles.
Salut tout le monde, salut Pierre-Benoît, comment ça va?
Mais ça va très bien, on va parler d'édito. On va faire l'édito impro avec toi en fin d'émission. De quoi va-t-on parler? Donne-nous à voir.
Ben en fait, il y a deux semaines, tu m'avais demandé si j'avais vécu une expérience un peu particulière en improvisation. Et au lieu d'y répondre, ben j'ai demandé aux auditeurs de Topette, les improvisateurs et improvisatrices, si eux avaient eu des vécus comme ça. Et on va décortiquer ça ensemble.
Autour de 18h50. Voilà, restez, ça c'est le bon truc pour rester jusqu'à la fin de l'émission. L'édito impro de Charles. On aura aussi Les Indépendantes en juin par Marie. Deuxième épisode, Topette, c'est parti. Tous les soirs jusqu'au jeudi 18h10, 19h.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, on va faire un rapide point sur l'actu locale à Angers dans le Maine-et-Loire. Et ce soir, c'est avec Émilien. Bonsoir Émilien.
Bonsoir Pierre-Benoît.
On commence avec Christophe Béchu qui devient président de la communauté urbaine Angers-Loire Métropole.
Après avoir abandonné il y a 2 semaines son fauteuil de ministre de la transition écologique pour reprendre celui de maire d'Angers, Christophe Béchu a hier repris son titre de président du conseil d'Angers-Loire Métropole. Depuis 2 ans et 25 jours, c'était une fois encore Jean-Marc Verchère qui occupait le poste de président. Celui-ci a été chaleureusement remercié et bien applaudi par toute l'Assemblée pour son dévouement. Christophe Béchu, quant à lui, a assuré de tenir les engagements pris en 2020 devant ses électeurs.
Et en plein mois d'octobre rose, le magasin Indies a planifié une journée spéciale pour les femmes atteintes du cancer du sein.
En effet, le magasin de prêt-à-porter pour femmes Indies d'Angers offrait hier, lundi 7 octobre, un moment de repos et de bien-être pour les femmes atteintes du cancer du sein. Margot Charrier, la directrice de l'établissement, a durant toute une journée proposé au cœur de la boutique des ateliers de manucure, de maquillage et de soins beauté. Directement en partenariat avec le Comité Féminin 49, une association favorisant la recherche médicale, la prévention et le soutien aux malades atteintes par le cancer du sein, L'idée était de faire vivre à ces femmes un moment d'évasion, mais aussi et surtout de féminité.
Et Octobre Rose, on en parle tout à l'heure. Une pièce de théâtre plongeant ses spectateurs au plus profond de la schizophrénie dont on a parlé justement jeudi dernier, mais on en reparle ce soir, mon cher Emilien.
Eh bien, tant mieux, parce que à quoi en fait l'univers et le quotidien d'une jeune fille atteinte de schizophrénie peut donc ressembler? C'est ce que la pièce L'effrayante effrayée de Clémence Veillé, psychologue et comédienne, a essayé de dépeindre dans ce spectacle théâtral mêlant la réalité interne externe d'une jeune schizophrène nommée Anna. En passant par ses hallucinations angoissantes, l'environnement médical qui l'accompagne dans ses moments de grande crise et son quotidien de lycéenne sensible entourée par sa famille et ses amis, cette histoire touchante permettra aux spectateurs d'entrevoir un peu plus sur la réalité de ce trouble mental. Cette pièce sera jouée à 20h ce jeudi 10 octobre au Centre Jean Vilar à Angers.
Merci beaucoup Emilien, la voix qu'on peut retrouver aussi dans le synopse, c'est mercredi prochain. Hein.
Absolument, oui, voilà, on a préparé avec Mathis, c'est bon.
C'est bon, un nouvel épisode en cours de préparation, Mathis sera là cette fois-là, restez attentifs, où vous pouvez déjà découvrir le premier épisode dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G, le synopse, voilà comment ça s'appelle. Allez, à toute vitesse maintenant, prenons le THV.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Amélie.
Salut.
Petite frayeur, on a cru que vous ne viendrez pas ce soir, mais si vous êtes bien là, toi et Maude, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on va parler du THG, bien évidemment, le théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, partenaire de l'émission Topette, et puis même avant, de l'Oreille Curieuse, de Kézako, depuis de nombreuses années, je ne saurais même pas donner un chiffre. En tout cas, des chiffres, des dates, tout ça, on va en donner, puisque nous allons parler du début de saison qui a commencé au courant du mois de septembre, ou qui va arriver intensément au mois d'octobre. Tout à l'heure, on va parler de zone de turbulence, bien évidemment, le grand temps fort qui arrive à grands pas. Mais avant tout ça, Amélie, Maude, comment ça se passe ce début de saison du côté du THV, plutôt automnal, Maude ?
Eh ben, ça va bien. c'est effectivement le début, mais ça, comme le festival a lieu dans moins d'un mois maintenant, c'est quand même, on s'ennuie pas, mais je crois qu'on s'ennuie jamais. Donc, et la saison s'annonce très chouette. Enfin, moi, la quasi-totalité des spectacles me donne envie, donc c'est bien, quoi. C'est motivant.
Voilà, tu éludes déjà maintenant la question du coup de cœur, puisque tu as dit que tu aimais tous les spectacles.
Ouais, exactement. Il y en a que j'attends plus que d'autres, mais je les ai pas tous vus. Donc, voilà, il y en a que j'ai vus, j'aurai des coups de cœur. Il y en a que j'ai pas vus et que j'attends. Enfin, espèce de.
Voilà. Est-ce que le début de saison a été, voilà, il y avait la grande journée de rentrée, je ne sais plus quand c'était, en septembre, Amélie, tu pourras me redonner la date.
Ouais, les 12 et 13.
Les 12 et 13, donc ça y est, depuis ce moment-là, top départ, les salles comblent chaque week-end.
Eh ben, on espère en tout cas d'avoir donné envie à tous les spectateurs qui étaient déjà en tout cas pour ces deux soirées avec nous. Et mais on a démarré fort parce que Zenzile a quand même effectivement fait salle comble. Et voilà, on a bien fêté les 30 ans du Chab, le lancement de la saison du théâtre et également les 10 ans du ciné-concert des Zenzile.
Alors ça fait déjà beaucoup, Maud, et pourtant avant Zone de Turbulence, il en reste encore des dates. On peut peut-être en citer quelques-unes. Tu avais l'air d'avoir
de ce qui arrive là.
Des gros coups de cœur pour à peu près tous les spectacles. Mais ouais. Si on fait un focus sur un d'entre eux, j'essaie de prendre le programme en même temps. Mais là, je suis déjà en décembre.
Ce soir, il y a un spectacle de clowns, ce qu'on appelle les clowns trash, ceux qui sont pas là pour les enfants. C'est pas du tout un clown pour enfants. Et c'est une femme qui parle de la mort d'un enfant. Donc c'est voilà, mais on est là aussi pour rire, voilà. Ça reste un clown qui essaye de nous faire voir les choses différemment. Et sinon, dans les spectacles qui arrivent et que moi j'attends vraiment avec impatience, il y a Subjectif Lune de la compagnie Les Maladroits, qui est une compagnie nantaise qui travaille le théâtre d'objets et qui fait toujours le lien entre, alors c'est un peu un cliché, mais la petite histoire et la grande histoire, et surtout un lien entre l'histoire et un engagement politique, on va dire. Et là, ce spectacle-là, il parle de la conquête spatiale et en profite pour parler des fake news, puisque je crois que c'est un Français sur 10 pense que c'est faux, en fait, qu'on n'est jamais allé sur la Lune, quoi. Voilà. Donc, ils prennent ce prétexte-là pour parler du complotisme. Et les Maladroits sont une compagnie très forte en théâtre d'objets. C'est-à-dire que l'objet n'est pas juste une marionnette, mais c'est à la fois l'objet tel qu'il est, mais aussi la représentation et tout ce qu'on construit autour de l'objet. Et ils utilisent toutes ces facettes-là pour faire des spectacles. C'est fabuleux.
Eh ben, ça tombe bien, Maud, que tu parles de ce spectacle pour illustrer justement ce début de saison, parce que c'est un petit peu la particularité, la touche au THG, c'est qu'on est sur, pas que sur du théâtre pur et dur, on est du théâtre pluridisciplinaire, on essaie d'aller chercher tous les médiums à chaque fois, il y a de l'image, parfois des objets, beaucoup d'objets aussi, moi je pense à Flop, hein, à la Amélie, hein.
Bricoluminologie.
Bricoluminologie, mais ça on en reparlera, j'imagine, au cours de la saison. Toi, Amélie, est-ce qu'il y a un spectacle, là, en ce début de saison, qui est un peu ton coup de cœur?
Ouais, je suis un peu comme Maud, moi, ils me font tous envie. Mais j'en attends un qu'on va accueillir l'an dernier et qui n'a pas pu jouer parce que le comédien s'était fait mal. Et c'est deux sœurs. C'est un thriller. Apparemment, c'est un spectacle qui fait plutôt peur. Voilà. Et on n'a pas souvent l'occasion de voir des pièces de théâtre qui sont angoissantes et flippantes. Donc voilà, j'attends ce moment-là. Ça parle des sorcières et comment en fait on crée l'hystérie autour de, enfin une hystérie collective et autour de personnages.
En lien avec Halloween, peut-être, qui arrive à grands pas. Charles, je t'ai vu hocher la tête, tu connais ce spectacle?
Je connais pas ce spectacle-là, mais je trouvais ça très intéressant. Je savais pas s'il y avait un lien avec les sœurs. Je sais qu'il y a des études en parapsychologie sur le fait des sœurs qui faisaient tourner des tables, etc. Les fameux esprits frappeurs, les personnes qui essaient de communiquer avec les morts, etc. Il y a un duo de sœurs américaines qui était là-dessus, mais je sais pas s'il y a un lien avec ça, mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant.
Ça parle en tout cas effectivement de alors je sais pas si c'est ces sœurs là mais effectivement ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait qui a disparu et l'enquêteur va mener va essayer de trouver des objets et en lien avec elle et remonter en fait toute son histoire comme ça pour comprendre.
C'est hyper important quand on parle d'esprit critique et c'est justement quand on parle de sorcières, sorciers, fantômes, etc. Il y a toute la partie paranormale, mais il y a aussi l'esprit critique et prouver avec des preuves. Et ça ramène un peu ce que tu dis sur est-ce qu'on est allé sur la Lune ou pas. Et c'est des sujets qui peuvent se retrouver, quoi.
De l'esprit critique, de l'esprit on va se faire peur aussi. J'espère que le THG n'est pas hanté, Maud, quand même.
J'espère pas, parce que moi, je n'irai pas voir ce spectacle, par exemple. J'ai hyper peur d'avoir peur.
Ah, donc c'est pas pour les enfants, hein, clairement.
Ah non. Et moi, je déteste ça. Je ne vais pas y aller, c'est sûr. Bon. Le Gerval m'a dit, de toute façon, le Gerval, c'est directeur du théâtre, il sait, hein, que, parce qu'on a déjà eu des expériences. On avait diffusé Shining au théâtre et j'ai passé la pire soirée de toute ma vie. Donc, il m'a dit, non, c'est pas pour toi, Maud. Voilà.
Bon, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur non plus, ne fuyez pas le THG. Il y a beaucoup d'autres spectacles très attractifs pour d'autres publics, on va dire. Mais si vous avez envie de vous faire peur, en tout cas, il y aura ce spectacle. On va redonner toutes les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission, bien évidemment. Et puis, on va aborder tranquillement Zone de Turbulence, puisque c'est le gros temps fort qui arrive. Ça fait quelques temps, j'imagine que déjà en fin de saison l'année dernière, vous étiez dessus. Avant tout ça, on fait une première pause musicale sur le 101.5 FM et on va jeter des boîtes avec Julien Sfola.
J'aimais bien la chimie orgale, les médicaments, les soirées pharma. Mais Josiane qui me parle de son caca. Oh merde, j'ai pas signé pour ça. Une boîte de Doliprane, ça fait 2,18€. Ton max s'est fait la malle, en fait je m'en fous de ta vie. Les douleurs abdominales, fallait pas taper des huîtres. Fallait pas taper des huîtres. Mamie me ramène un sac rempli. Apparemment y'a plus de papy. Merci madame, je vais faire le tri. Bah non, le tri c'est interdit. Alors je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette des boîtes. Je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette des boîtes. Je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette des boîtes. Pas donné le bon dosage. Au pire, je dirais que j'étais en stage.
Je jette des boîtes de Julien Sfera, un titre qui cartonne, hein, qui a fait le buzz vraiment sur les réseaux sociaux et tout ça. Il est passé sur TF1, France 2, M6, vraiment Julien Sfera. Si vous n'avez pas encore entendu parler de lui, bah voilà, maintenant c'est fait et allez voir ce qu'il propose, c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est ces zones de turbulence, cette zone de turbulence qui va avoir cours. Alors ça va partir du THV, ça va un petit peu irradier partout sur le territoire angevin. Un festival, comment on pourrait le qualifier, Maud, ce festival?
Avec des spectacles à partir de 18 mois,
ouais,
jusqu'à pas de fin.
Oui, donc, c'est pour tout public, voilà, mais ça, principalement mais, enfants, mais effectivement, tout public.
Tout public, mais spécifiquement pour le jeune public.
Parce que le THV est une scène conventionnée jeunesse, Amélie, je te vois t'approcher du micro.
Ben non, c'était pour confirmer tout ce que vous racontez.
Et on n'a pas envie de dire festival jeune public, même si on le note et tout ça, mais parce que sinon on pense que du coup c'est que pour les enfants. Alors que clairement il y a des spectacles qu'on peut aller voir même si on n'a pas d'enfants. Enfin, on juge personne, quoi. Venez sans enfants.
Oui, ben.
Il y a vraiment des super spectacles pour tout le monde. Enfin, même si c'est à 3 ans, moi il y a des spectacles que j'ai vus à partir de 3 ans. J'ai passé des super moments, quoi.
Mais ouais. C'est comme beaucoup de jeux pour enfants, hein. C'est 2 ans et plus, et le plus, il n'y a pas de fin à la fin, donc on peut y aller à tout instant. C'est du 20 octobre au 10 novembre, alors quand même...
Du 29, pardon, je reviens.
Ah oui, pardon, du 29, c'est moi qui ne sais pas lire ce que j'ai écrit. Précisons quand même qu'il n'y a pas que le THV qui est impliqué là-dedans, c'est vraiment la volonté de croiser, de faire venir beaucoup de compagnies, de les faire se déployer aussi dans d'autres structures culturelles du territoire, Amélie.
Ouais, c'était l'idée de fédérer plusieurs structures culturelles autour d'un événement et effectivement, on est 13 partenaires de l'agglo à organiser en fait ce festival sur c'est la 3e édition. Hein. Donc la première, c'était ça émanait du THV et effectivement, on s'étend progressivement pour croiser les publics, pour croiser faire commun en tout cas.
Et puis donner de la visibilité à ces créateurs en fait, parce que souvent quand même, enfin le spectacle jeune public est justement c'est du spectacle pour les enfants, c'est pas
c'est la kermesse un peu.
Oui, c'est des artistes qui sont inconnus, tout ça, et en fait la créativité elle est vraiment folle dans ces formes là. Et il y a les budgets, enfin clairement les budgets sont moindres, les budgets de création alloués sont moindres et tout ça, et c'est pas normal en fait. Et du coup c'est l'idée de montrer aussi là tout ce qui existe, tout ce qui est possible de faire, tout ce qui est possible de voir.
Et c'est un bel échantillonnage, alors quasi presque exhaustif et représentatif de ce qui se fait dans la création jeunesse justement, parce que déjà le flyer, c'est même pas un flyer, c'est un poster, clairement, on peut l'accrocher sur son mur, on peut en avoir deux, parce qu'il faut le recto et le verso, mais il y a vraiment énormément de spectacles, il y a beaucoup de représentations et de représentations diverses et variées, avec différents médiums, comme on disait tout à l'heure, Maud Amélie.
C'est ça, il y a de la danse, il y a de la vidéo, il y a de la bricomunie,
c'est Amélie qui a le terme. Bricoluminologie, c'est ça.
Et il y a des formes qui sont quand même pas de formes, qu'on a appelées OVNI, ou voilà, qui sont des espèces de témoignages, de documentaires sonores, mais à vivre en direct. Un spectacle qui a été choisi d'ailleurs par les Infiltrés, donc qui est un groupe d'enfants qui nous accompagne et qu'on accompagne toute l'année au théâtre, et qui ont choisi ce spectacle-là, qui est une forme où on est assis autour d'une boîte avec des casques sur les oreilles, on regarde dans une fente à travers cette boîte et on voit un gars qui vit sa vie. Et comment qualifier ce spectacle, j'en sais rien.
C'est lui l'OVNI, hein, c'est ça?
Oui, c'est lui l'OVNI.
C'est vraiment qualifié d'OVNI, hein, sur la brochure.
C'est un spectacle, mais un spectacle de quoi? Et c'est des enfants entre 9 et 11 ans qu'on se choisit ce spectacle-là, et c'est un super spectacle.
Bon, entre l'OVNI et puis la Lune, du coup, on sait plus où placer le propos complotiste ou pas. En tout cas, il y a vraiment de belles propositions. On travaille tous les sens aussi, Amélie. Hein. Là, on parle du visuel, il y a un casque, peut-être pas le goût, mais pas loin, peut-être.
Alors là, je réfléchis.
Si,
mais...
on a du goût, parce que il y a un bar à sirop.
Ah oui.
Il y a tous les sens qui sont
On a fait un lieu, parce que avant le festival était un peu éclaté sur la commune de Saint-Barth, et donc là le centre sera pas le THV, parce que le THV c'est aussi la mairie, donc on peut pas faire le bazar partout.
Ouais. Voilà, c'est pas comme possible. On voudrait en tout cas.
Il y a un petit peu de sérieux à avoir dans certains couloirs, j'imagine.
Il faut partager les espaces et nous là on n'a pas
envie. Là on aurait eu envie, on aurait eu plein de mots, mais tout ça, bref, on serait pas été possible, donc on s'est excentré sur un centre sportif, mais qu'on a transformé parce que on avait envie que l'espace soit chouette. Et il y aura une salle d'accueil dans laquelle on va mettre de la pelouse, des arbres et un bar à sirop. Voilà.
Le fameux bar à sirop.
Important.
En plus, ça colle un peu le sirop. Faut pas en mettre partout. Je sais que moi, j'aime pas trop en avoir sur les doigts. En tout cas, une belle proposition riche, variée, vraiment assez dense. Si on devait donner un chiffre, il y a combien de spectacles? Il y en a
24.
24, ouais.
Tu me demandes les chiffres.
C'est Amélie, les chiffres aussi. Et ben, justement, les chiffres ou les infos pratiques pour découvrir la programmation en entière sur le site internet, réservations, il y a des systèmes d'adhésion.
On a créé un site spécifique pour zone de turbulence qui s'appelle donc zone-2 turbulence.fr. C'est un peu long, mais allez voir parce que la prog elle est vraiment chouette. Et l'idée c'est que on voulait que ce soit accessible donc pour les familles. Donc le tarif est unique et de 6 € par spectacle et on a la possibilité de prendre un pass et qui nous permet d'avoir donc la place à 5 € au lieu de 6. Mais voilà.
C'est ultra accessible. Là, on parle de zone de turbulence. On pourra aussi parler tout à l'heure des tarifications, des adhésions pour la saison au THV. Et puis, voilà, s'il y a encore une ou deux infos à dévoiler à nos auditeurs, auditrices, gardez-la au show, Maud, Amélie, parce qu'on va passer à notre deuxième sujet dans quelques instants. Mais avant tout ça, on fait un petit détour par le podcast des indépendantes angevines et on revient juste après.
Les indépendantes angevines. La chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous parle de Sarah. Sarah a 35 ans et est pâtissière. Cela fait 3 ans et demi qu'elle s'est lancée à son compte et a fondé Colette Pâtisserie. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà croisée sur son vélo ou goûté une de ses délicieuses créations. Sarah n'a pas toujours été auto-entrepreneur, ni même pâtissière. Son projet initial était de devenir professeure des écoles. Elle a eu son bac en 2007 et a poursuivi des études universitaires en décrochant d'abord une licence psychologique suivie d'un master en enseignement. Bien qu'elle réussisse les épreuves écrites du concours, elle ne valide pas l'oral. Ce n'est pas un obstacle majeur car parallèlement, elle occupe un poste en contrat de service civique au sein de l'association La Fève à Poitiers où elle accompagne des jeunes issus de quartiers prioritaires. Ses premiers pas dans la vie active sont une expérience humaine très forte pour Sarah. Une expérience qui l'a aidée à sortir de sa coquille et lui a surtout fait prendre conscience qu'elle souhaitait faire autre chose. Ça tombe bien, l'association a justement proposé à Sarah un emploi à temps plein en CDD, à La Rochelle en tant que gestionnaire de projet. Cependant, après 3 ans, elle ressent le besoin de changement. La vie de bureau où elle passe la majorité de son temps devant un ordinateur et en réunion ne lui convient plus. Elle décide donc de refuser le CDI qui lui est offert et s'envole pour le Kenya pendant 6 mois. Où elle s'engage dans une mission pour une association écologique. Ce sera une expérience totalement dépaysante. Cette aventure lui offre également l'opportunité de prendre du recul et de réfléchir à ses aspirations pour l'avenir. Elle ressent le désir de se tourner vers des activités plus manuelles. Et pourquoi pas la pâtisserie ? Depuis son adolescence, elle a toujours eu une passion pour ça. Affaire à suivre. De retour en France, Sarah reprend la gestion de la ruche qu'elle avait déjà en parallèle de ses missions à l'association. Ah oui, c'est à ce moment-là que je vous perds. Bon, je fais une pause. La ruche fait référence au concept de la ruche qui dit oui. Une entreprise issue de l'économie collaborative qui met en relation les agriculteurs et les transformateurs alimentaires avec une plateforme en ligne et des points de vente physiques, donc les ruches, pour faciliter la vente en circuit court. Bon, alors j'en étais où ? Ah oui. Donc, Sarah revient du Kenya, reprend la ruche et réalise un bilan de compétences qui la conforte dans son projet d'être pâtissière. C'est parti ! Elle intègre un CAP en alternance pendant 1 an, puis en 2018, son diplôme en poche, travaille dans un coffee shop. C'est la période du Covid qui donne l'impulsion à Sarah de se lancer. Son compagnon est muté à Angers et elle sent que c'est le moment de créer son entreprise. C'est assez clair dans sa tête. Elle préfère commencer petit. L'idée du vélo arrive vite. C'est un concept sympa, novateur et écologique. Son expérience à la ruche l'a inspirée à s'engager dans le circuit court, en collaborant avec des partenaires et en utilisant des produits locaux. Elle tient à cœur de partager ses valeurs liées au bien manger et au locavorisme, tout en veillant à proposer des produits accessibles à tous à un prix équitable. Suite à un accompagnement de 6 semaines à la BGE, Colette voit le jour en janvier 2021. Pour Sarah, tout s'imbrique parfaitement. Ses valeurs, ses aspirations et son engagement. Elle est convaincue que seul l'entrepreneuriat pouvait lui offrir cette harmonie. Elle désirait créer quelque chose qui lui ressemble, qui lui soit propre et aspirer à l'indépendance. Pour elle, l'entrepreneuriat implique également de bien s'entourer et de bénéficier du soutien de son entourage. D'ailleurs, son petit conseil d'entrepreneur, ne pas oublier qu'il n'est pas possible de dire oui à tout et qu'il est essentiel de prendre du temps pour soi, surtout si on veut que ça dure. Vous pouvez retrouver Sarah, son vélo et ses douceurs. De saison, elle s'y engage. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez goûter les muffins aux prunes sur le marché de la Place Lafayette à Angers ou alors dans certains salons de thé. Mais vous pouvez aussi la retrouver sur son compte Instagram, Colette Pâtisserie.
Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Les indépendantes en juin à découvrir dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G et toutes les deux semaines dans Topette. Topette qui est à peu près dans les temps aujourd'hui, ce soir. Donc on va continuer parce qu'il y a l'édito impro de Charles qui arrive tout à l'heure. On sait très bien qu'on peut aller jusqu'à 20h avec lui. Donc on va passer à notre deuxième sujet de la soirée. Et c'est Nolwenn qui va s'en charger.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Nolwenn, on parle d'Octobre Rose maintenant.
Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, on accueille Pierre Pabot du Châtelard, secrétaire général de la Ligue contre le cancer en Maine-et-Loire. Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, aujourd'hui, on va parler de cancer, du cancer féminin le plus fréquent. Il touche 61 000 femmes par an. On parle du coup, évidemment, du cancer du sein et d'Octobre Rose, aussi un mois d'action pour sensibiliser à l'importance du dépistage. Comment on pourrait expliquer, Pierre, simplement, ce qu'est le cancer du sein pour les personnes pour qui c'est encore un peu flou?
Le cancer du sein, comme tout cancer, c'est à un moment donné la multiplication de cellules qui se regroupent en une boule, une tumeur. Et si elle croît, il y a des cellules qui partent et qui vont dans les ganglions, voire à distance. Et ça fait des métastases. Et quand le cancer est généralisé et que l'on ne fait pas de traitement, on arrive à l'évolution fatale.
Et donc c'est un cancer qui se développe plutôt souvent autour de 60 ans, mais dans 20% des cas, il se développe avant l'âge de 50 ans. Il peut même toucher des hommes dans une minorité de cas. Qui ça touche exactement? Qui sont les personnes considérées comme les plus à risque?
Alors, il y a quelques antécédents qui sont reconnus, à la fois personnels et familiaux. Hein. Donc, on peut... Les prédispositions, c'est quand même pas énorme, hein. C'est de l'ordre de 10 à 15% au grand maximum. Hein. Mais c'est, à ce moment-là, ces personnes à risque, elles sont prises avant le dépistage. Hein. Il faut quand même les surveiller un petit peu avant. C'est de l'ordre du médecin de traitant. Hein. Bon. Et alors vous avez dit effectivement, le cancer du sein existe chez l'homme, mais c'est 1%. Des cancers du sein. Donc, c'est vraiment peanuts, mais ça existe. Et on en a dans le Maine-et-Loire. Hein, il y a quelqu'un qui, périodiquement, fait une intervention dans des groupes d'hommes pour dire qu'il faut quand même se surveiller.
Et donc, il y a différentes façons de se faire dépister, des mammographies, des palpations. Comment ça se passe? Qui on doit consulter si on veut se faire dépister?
Alors, en fait, le dépistage, il est... pour les gens qui n'ont pas d'antécédents, hein, entre 50 et 74 ans. Donc il ne faut quand même pas trop être perturbé. Hein. L'âge médian du cancer du sein, c'est 64 ans. Donc, mais c'est vrai qu'il y a 20% qui arrivent avant 50 ans. Ça devient rare en dessous de 35 ans, et c'est exceptionnel à 20 ans. Hein. C'est vraiment... Donc, si on est très très angoissé, je crois que avec le médecin traitant, il faut une prescription, hein, pour passer une mammographie. Vous avez dit, vous avez cité la palpation, etc. Le maître, enfin diagnostic, c'est la mammographie. C'est la mammographie qui a eu ses lettres de noblesse il y a fort longtemps. Moi, je me souviens, j'ai fait ma thèse en 1973, donc c'était le siècle précédent, et je l'ai faite sur la thermographie, parce qu'à ce moment-là, ça avait le vent en poupe, et puis je démontrais d'ailleurs dans cette thèse que toutes les insuffisances de la thermographie. Dans la mammographie, ça reste l'examen essentiel, qui peut être complété par d'autres examens, notamment l'échographie et l'IRM.
Et lorsqu'il est détecté tôt, dans 90% des cas, le cancer du sein peut être guéri, mais comment est-ce que ça se soigne, le cancer du sein?
Alors, il y a la triade. La triade, chirurgie d'abord, chimiothérapie, qui peut être avant la chirurgie ou après, et la radiothérapie. C'est vraiment les trois, le trépied essentiel. Le cancer du sein est un cancer hormonodépendant, comme le cancer de la prostate chez l'homme. Et donc l'hormonothérapie a aussi une place très importante. Et elle se fait en général après la triade qui a été annoncée.
Et une femme sur huit donc sera peut-être confrontée au cours de sa vie à ce cancer. Pourquoi c'est important de sensibiliser au sujet du dépistage ?
Alors le dépistage, comme vous l'avez dit, c'est d'aller chercher quelque chose qui ne s'exprime pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe d'alerte, que ce soit des grosseurs que l'on peut palper, que ce soit des déformations du sein, que ce soit des rétractions du mamelon ou un écoulement mamelonnaire, une inflammation. Tous ces signes doivent alerter, bien sûr. Mais une femme qui n'a rien, eh bien, on va essayer de voir des signes avant-coureurs. Et les signes avant-coureurs se dépistent à la mammographie. Parce que autour de des canaux, c'est souvent dans les canaux, il y a des calcifications, et ce sont des calcifications, des micro-calcifications qui font objet de dépistage et qui permettent de faire des biopsies.
Et bien maintenant qu'on maîtrise un peu mieux les contours techniques, j'ai envie de dire, du sujet, on va pouvoir parler d'Octobre Rose. Mais avant tout ça, on fait un autre volet de sensibilisation dans Topette ce soir sur la santé mentale avec les SISM. C'est le deuxième podcast d'une série de 9 qu'on diffuse jusqu'à la semaine prochaine.
Bonjour à tous, je m'appelle Cathy et je suis actuellement en formation assistante de service social à la RIFT. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un dispositif qui est l'escale. C'est du sport, des loisirs, mais aussi des vacances adaptées. Situé à la Cité, 38 boulevard du Doyenné à Angers, l'escale accueille adultes, enfants et adolescents porteurs de handicap. Cette association propose des activités sportives, culturelles et des loisirs. L'association a pour but de favoriser le développement, l'autonomie ainsi que le lien social. La sensibilisation au handicap est aussi au cœur de leur travail. L'équipe professionnelle est composée d'enseignants APA, activités physiques adaptées, d'un maître nageur et d'un coordinateur. Une inscription est nécessaire pour participer aux activités. Lors de cette inscription, un entretien est réalisé afin de comprendre ce que la personne attend de l'association, puis le dossier d'inscription est réalisé. Les deux premières séances sont gratuites et par la suite, l'inscription coûte 140 euros l'année. Les activités proposées par l'escale peuvent être du bowling, du foot en partenariat avec le club de Trélazé, du baskin, qui est un jeu collectif avec un ballon, et bien d'autres activités, qu'elles soient activités physiques ou activités sportives. Les activités réalisées par l'association sont toujours effectuées en collectif afin de maintenir le lien social des adhérents. L'escale est une des associations de l'ADAPEI 49. Qu'est-ce que l'ADAPEI 49 ? C'est l'association départementale des parents et amis de personnes ayant un handicap mental créée en 1959 afin d'aider les personnes en situation de handicap, mais aussi leurs proches. Elle permet à chacun d'avoir des réponses aux questions qu'ils se posent sur leur handicap ou sur le handicap d'un proche afin de permettre un meilleur accompagnement. L'ADAPEI se situe 126 rue Saint-Léonard à Angers. Merci pour votre écoute.
Le deuxième épisode sur 9 de la série consacrée à la semaine d'information sur la santé mentale 49. Alors je crois qu'au cours de l'émission j'ai dit qu'on les recevait demain, mais non, c'est jeudi. En attendant, on continue de parler cancer du sein et Octobre Rose aussi avec toi Nolwenn et ton invité.
Oui, on parlait de sensibilisation tout à l'heure au dépistage et les femmes ligériennes sont plutôt bonnes élèves puisqu'en 2021 et 2022, 58% d'entre elles avaient participé à la campagne de dépistage du cancer du sein. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il reste encore 42% de femmes à convaincre et c'est pour ça qu'Octobre Rose est organisé. Alors c'est un mois entier de mobilisation pour sensibiliser donc à l'importance du dépistage et il y a un grand nombre d'initiatives qui sont menées. Quel est le but de toutes ces actions ?
Alors ces actions, c'est souvent des actions ludiques ou sportives, faire des randonnées, faire des pièces de théâtre, faire des choses, mais c'est pour rassembler les gens, pour passer des messages. C'est essentiellement des messages et effectivement le message important du dépistage, c'est que on va rechercher quelque chose qui est de petite taille. Et quand c'est, alors ça ne veut pas dire non agressif, mais c'est de petite taille. Et quand c'est petit, eh bien les chances de guérison sont extrêmes. Et effectivement, vous avez dit 9 fois sur 10, ça, il faut quand même que ça soit pas trop méchant, mais 9 fois sur 10, on guérit, quoi. Et dire guérison pour un cancer, c'est quand même une grande performance. Voilà, alors, vous avez dit le chiffre, effectivement, du Maine-et-Loire. L'ensemble de la France, ça affleure les 50%. Hein. Les Pays de Loire sont un petit peu supérieurs, mais le Maine-et-Loire, effectivement, est en tête. Mais c'est largement insuffisant. Alors, dire qu'il faudrait faire 42%, c'est du rêve. On n'arrivera jamais à 100%. Mais il faudrait, pour être efficace et avoir un impact sur la mortalité, il faudrait arriver au-delà de 70%. Alors, si on réfléchit bien, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça, parce que donc 58%, vous avez dit, mais c'est le dépistage organisé. Mais il y a des femmes qui passent des mammographies prescrites par leur médecin, soit un petit peu avance, soit de façon régulière, parce qu'il y a des antécédents, etc. Et ce pool fait pas loin de 10%. Donc on peut faire, ça fait 68%. Quoi. Donc il y a un effort à faire, mais la partie n'est pas perdue. Donc il faut vraiment... voilà.
Et les bénéfices de toutes ces actions qui vont être menées au cours du mois d'octobre, à qui vont-ils être reversés? À quoi vont-ils servir?
Alors, on peut penser qu'elles vont servir pour la bonne cause. Hein. À qui elles vont servir? Alors, au niveau de la Ligue, il y a eu un petit dépliant, enfin, je crois que vous l'avez, un petit livret qui... Non, c'est pas celui-ci.
La Ligue contre le cancer, non, l'Apple, tout à l'heure.
L'October Rose. Bon, je vous le donnerai, c'est super. Où il y a répertorié toutes les actions, que ce soit donc des chorales, des théâtres, randonnées, etc. Mais on a été obligé de mettre une date butoir, et c'est ce qu'on a su fin juin, le temps de l'été, etc. Et depuis, il y en a eu encore d'autres, quoi. Hein. Donc il y a énormément de manifestations, et c'est très bien que ça touche beaucoup de public. Il y a des manifestations, par exemple, une grande manifestation qui est bien connue des Angevins, c'est donc Octobre Rose Angers, qui est organisée par le comité féminin. Alors, à l'origine, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, le comité féminin a été porté sur les fonts baptismaux par la Ligue. C'est la Ligue qui l'a promu. Et puis après, assez rapidement... grâce un peu à la mairie qui s'est impliquée, la municipalité donne beaucoup pour cette manifestation, s'est impliquée, elle s'est un petit peu détachée et elle a eu le succès que l'on sait depuis un grand nombre d'années. Alors, l'argent qui est récolté là est, autant que je sache, la plus grande partie reversée à l'ICO, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Donc c'est pour la bonne cause, hein, ça c'est tout à fait évident. Alors, et puis les autres, eh bien, dans cette brochure qu'on a éditée, il y a un certain nombre de manifestations dont les dons seront versés à la Ligue, et la Ligue les donne d'emblée pour ce qu'on appelle les missions sociales, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler.
Et du coup, justement, en parlant de la Ligue contre le cancer, quelles sont les autres actions menées en plus d'Octobre Rose en Maine-et-Loire tout au cours de l'année?
Alors, il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de manifestations et pratiquement chaque mois, il y a quelque chose. On a passé le mois de septembre. Le mois de septembre était dédié à l'oncopédiatrie, c'est-à-dire au cancer des enfants et des adolescents, et qui sont un petit peu perdus de vue, hein, mais ça c'est important. Alors, Octobre Rose, bon, c'est le cancer du sein. Ensuite, il y a novembre, c'est le cancer de la prostate, mais c'est aussi la lutte contre le tabac. Ensuite, décembre, enfin, chaque mois, en février, par exemple, on a le soutien de la recherche, hein, avec ce que l'on fait pour la recherche. En mars, il y a Mars Bleu, donc qui est dédié au cancer du côlon. En juin, c'est Juin Vert, qui est dédié au cancer du col de l'utérus, parce qu'il y a trois cancers qui ont la possibilité de dépistage. Parce que pour dépister, encore une fois, ce sont des gens qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas de symptômes. Ils ne sont pas à réclamer quelque chose. Et on va leur dire, vous avez déjà... Bon, c'est déjà une intrusion. Hein. Bon. Donc il faut être sûr de son coup. Il faut que le test diagnostique soit pas trop cher, qu'il soit pas trop agressif, donc c'est le cas de la mammographie. Il faut que ce soit faisable là, et que c'est effectivement un impact. Et Pour le côlon, c'est encore moins cher, parce que c'est juste un prélèvement de sel. Donc là, c'est très facile. Malheureusement, la participation au cancer colorectal est quand même très faible. Hein. On est entre 30 et 40%, on est bien loin des 70%. Donc là, il y a un très gros effort à faire. Et puis, pour juin, eh bien, il y a le frottis, et puis maintenant, il y a donc la vaccination du HPV, qui est pour filles et garçons, donc que vous connaissez bien, de 11 à 14 ans.
Merci Pierre, on aura l'occasion je pense d'en reparler dans Topette, on va voir ensemble si on peut couvrir de nouvelles fois les différents mois qu'on a évoqués. Pierre Pabot du Châtelard, secrétaire général de la Ligue contre le cancer en Maine-et-Loire. Tout à l'heure on va redonner les infos pratiques, les grandes lignes pour octobre rose bien évidemment, merci Nolwenn aussi. Juste avant tout ça, on va se faire un petit détour par l'édito en pro puisque Charles est avec nous ce soir en studio.
Salut Pierre-Benoît, salut les copains, salut les improvisants-angevins. Ce soir, grande première, j'ouvre la boîte aux lettres des auditeurs de Topette avec le courrier du coach de l'édito impro. J'ai demandé aux auditeurs, par le biais des réseaux sociaux, de me raconter une expérience d'impro qui les aurait interrogés. Ensemble, on va décortiquer tout ça parce que c'est assurément des expériences que d'autres ont vécues et des questions que d'autres se sont posées. Le principe est simple. Pierre-Benoît, t'as les lettres des auditeurs, c'est bon?
Ouais, c'est bon.
Ok, on va en prendre deux que tu vas nous lire et on va y répondre. Allez, on est parti avec la première.
La première de Kiki. Cette année, j'ai rejoint une nouvelle équipe d'impro. Les gens sont super gentils, on rigole bien. Bref, j'adore mon équipe, je suis contente parce que c'est une équipe que je voulais rejoindre depuis très longtemps. Je les ai toujours trouvés drôles et talentueux. Je suis hyper excité d'en faire partie cette année. Or, j'ai eu mon premier match dernièrement et j'ai eu l'impression de perdre tous mes moyens. Je me suis trouvé nul, même si mon coach me disait le contraire. Comment faire pour retrouver mon jeu ?
Alors, c'est très très simple. Okay, en fait, c'est une situation qui est vraiment classique et qu'on peut même trouver dans n'importe quel monde, professionnel, sportif, quoi que ce soit. Il y a des équipes, il y a des maillots qui impressionnent. Quand tu vas les voir, t'es dans le public, tu les regardes jouer et tu es impressionné par leur jeu, leur talent, leur énergie, tout ça, tout ça. Tu te projettes et t'aimerais partager ce moment-là avec eux. Bref, ça te fait rêver. Sauf que, si ce rêve-là devenait réalité, parce que t'as répondu à une audition puis que t'as été pris dans l'équipe, eh bien ce rêve-là se transforme en pression. Quand t'es sélectionné, t'as l'impression d'être adoubé par l'équipe et que l'équipe que t'as admirée. Et que t'as des preuves à faire. Tu vas vouloir prouver non seulement à l'équipe et au coach qu'ils ont bien fait de te choisir, mais tu veux te prouver à toi-même que tu as vraiment ta place. Et au public aussi, hein. Ceux qui étaient assis à côté de toi et qui n'ont pas été pris, tu les imagines dans la salle en train de juger. Bref, ça peut partir très vite dans ta tête. Donc, Kiki, laisse-moi te dire un truc. L'équipe que t'as vue sur scène la saison passée, celle que t'as admirée et tout, je suis désolé de te l'apprendre, mais elle n'existe plus. C'est fini. Principalement parce que tu viens de la rejoindre, toi et d'autres hein, qui ont été pris aussi. La composition de l'équipe, elle est différente. Les connexions aussi, la complicité et tout ça, ça fait que c'est une équipe qui est différente. Et c'est, en passant, c'est pas ton arrivée hein, qui a gâché tout ça. Hein. C'est tout simplement parce que c'est la vie qui évolue. Même si une équipe restait la même, on sait très bien comment ça se passe dans les assos. Il y a des tensions qui se créent, il y a des distances qui se prennent, il y a une équipe... Bref, une équipe, c'est mobile. C'est juste que, du point de vue du public, on a l'impression que... on n'a pas l'impression que ce soit le cas parce que le maillot, lui, il reste le même. Et il suffit pas d'ajouter son nom au dos d'un chandail pour se sentir membre de l'équipe. Faut que la cohésion se crée et que tout le monde, les vétérans comme les nouveaux arrivés, apprivoisent ce nouveau groupe. T'es pas devenu mauvaise en impro simplement parce que tu as monté d'un niveau ou que t'as changé d'équipe. C'est que, comme dans n'importe quelle situation, encore une fois, professionnelle, sportive, qu'importe, t'es dans un nouvel environnement et que tu dois l'apprivoiser. Et ça peut prendre du temps, comme ça peut ne pas arriver. L'important, c'est de te donner une chance, de te donner du temps et de faire confiance en ton équipe.
Et on a une deuxième lettre de JB qui nous dit « J'ai mal vécu une improvisation et j'aimerais savoir si j'ai bien agi sur une impro mixte. On s'installe, une ambiance de salle de classe et rapidement on se lance dans une histoire d'intimidation où je joue l'élève martyrisé par l'autre joueur. Je tente de faire évoluer l'histoire, mais de l'autre côté, le joueur reste bloqué sur le fait de m'insulter et de rire de moi. Et voyant que le public rigole à ses blagues, à mes dépens, une deuxième joueuse monte en patinoire pour en ajouter une couche. Les deux membres de l'équipe adverse se sont donc trouvé dans la situation de m'insulter, de se moquer de moi. J'ai quitté la scène en pleine impro alors qu'il restait 2 minutes à jouer. Pas que j'étais blessé ou quoi, hein, juste cette impro ne m'intéressait plus, pour ne pas dire autre chose. Comment est-ce que j'aurais dû jouer cette situation, Charles ?
Alors, c'est très intéressant comme cas. La première chose que je peux te dire, JB, et je le dis vraiment à tous les improvisateurs et improvisatrices, comédiens, comédiennes, tu as très bien fait. Qu'importe les règles en impro, il n'existe aucune situation à où recevoir de la violence physique ou verbale, c'est OK. Un des principes en impro, on est d'accord, c'est qu'il faut toujours dire oui, accepter la situation pour éviter de freiner l'histoire. Mais ça veut pas dire que tu dois accepter tout et n'importe quoi. Si tu es dans une situation inconfortable qui te fait décrocher de ton jeu et que décrocher de ton plaisir de jouer aussi, hein, y a aucune raison que tu t'imposes ça. Dans une situation comme ça, pour citer Virginie Despentes, on se lève et on se casse. Certains vont dire que c'est une hérésie, que c'est un frein à la créativité instantanée. Personnellement, je m'en fous. Vraiment. Parce que si tu regardes bien Pierre Benoît dans sa lettre JB, il dit pas que c'est son personnage qui a vécu tel truc. Il dit, ils m'ont insulté. Ils se sont moqués de moi. Ça veut dire que le comédien est complètement décroché de l'acte théâtral et que c'est lui qui reçoit les attaques. Et là, on peut les entendre venir les on peut plus rien dire, on peut plus improviser. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas aborder en impro des sujets sensibles comme ici l'intimidation. Mais cette scène qui est décrite doit servir de prémisse à une histoire générale. On veut voir l'élève martyrisé, retourner chez lui, parler avec ses parents, etc., etc. Or, l'impro, elle n'allait pas là. On avait dépassé le stade de la mise en place de l'ambiance. L'impro allait dans le mur de toute façon, avec ou sans toi, JB. Partout en France, de Lille jusqu'en Martinique. Oui, on est écouté jusque-là. Est-ce que ça, on peut pas se la péter un peu? Donc, c'est certain qu'on va se refaire ça bientôt.
Eh bien, merci à toi, Charles. Et non, on est pile poil dans les temps. Alors, tu as 30 secondes pour nous faire un petit point sur les actus. On va laisser la place ensuite aux invités pour rappeler les infos utiles et pratiques. Mais concernant la pro, les actus en ce moment, qu'est-ce qu'on a?
Bah écoute, c'est très très simple. Ce soir à 20h30, les Zygomatiques vont jouer leur cabaret au Boudoir. La Lima va présenter leur cabaret au Welsh à 20h vendredi, ce vendredi-ci. Et aussi un autre cabaret aux Brasseries des Allumettes au Pensé, jeudi 17, la semaine prochaine. Et Les Lions dans ton salon vont être le vendredi 18 à l'Esso, un café associatif, à 20h pour leur cabaret. Et surtout, Pierre-Benoît, du 20 au 27 octobre, l'équipe de France est à Bruxelles pour le Mondial professionnel d'improvisation où vont être présentés le Maroc, la Belgique, la Suisse, le Québec, le Luxembourg et évidemment la France qui va remettre son titre en jeu. Sont alignés Igor Potowski, Amel Diam, Félix Philippard, Olivier Descartes qu'on a eu le plaisir d'avoir dans l'édito impro et la capitaine Cécile Giroux. On leur souhaite merde et bonne chance.
Allez les bleus, voilà, allez d'un mot rapidement Maud, Amélie, les infos pratiques concernant la zone de turbulence, c'est Maud qui s'empare du micro. Où est-ce qu'on retrouve ça vraiment en 10-15 secondes, les infos pratiques?
Sur le site internet.
Amélie, de cœur, en canon, c'est ça qu'on dit. Sur le site internet donc Amélie.
Sur le site internet de zone de turbulence, donc zone-2-turbulence.fr. J'ai essayé de faire
turbulence au pluriel.
Turbulence au pluriel, ouais, parce qu'il y en a plusieurs.
Il y a plusieurs zones de turbulence. Pierre, je vous laisse reprendre le micro sur Octobre Rose.
Voilà, et en fait, toutes manifestations qui sont marquées là sur le site ont un partenariat avec la Ligue, mais ne donnent pas tout à la Ligue. Mais il y a une bonne partie qui reverse à la Ligue. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Eh bien, c'est très important. On fait pour les missions sociales essentiellement. Ensuite, c'est l'aide aux malades. Et l'aide aux malades qui se décline en multiples façons. Troisième plan, c'est la prévention. Et la prévention, ça coûte pas très cher. Il faut quand même des gens qui sont très, têtus. Parce que ce qu'ils font, ça va jouer sur la génération qui arrive. Et on a essentiellement un public d'enfants de la 5e. Il y a un peu le lycée, mais c'est surtout les enfants. Alors il y a aussi le grand public, mais voilà, la prévention. Et la dernière mission, c'est pour des plaidoyers, pour des grosses causes, style le manque de médicaments, parce qu'il y a des pénuries aussi de traitements anticancéreux. où on ne peut pas actuellement traiter correctement certaines pétiones. Il y a par exemple les nitrites, les nitrates qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Il y a les écrans, il y a des tas de choses à défendre.
Merci beaucoup Pierre, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Pierre Pabot du Châtelard, secrétaire général de la Ligue contre le cancer en Maine-et-Loire, d'être venu ce soir dans Topette pour nous parler d'Octobre Rose et puis bien évidemment de ce sujet ô combien important du dépistage du cancer du sein. Nous on se voit demain, prenez soin de vous, à demain et Topette.
The sun is dying.